Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est fou comme un bout de bois, une estrade, une télécommande, une Bible et des gens peuvent mettre le stress. Mais ça va bien se passer, je suis content d'être avec vous. Ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a eu un culte avec des baptêmes. Il y a quatre personnes qui nous ont expliqué pourquoi elles avaient décidé de croire en Jésus. Et c'était fou de voir dans chaque témoignage combien la Bible était importante. Chaque personne nous a dit, et on m'a lu un verset, et j'ai découvert, et j'ai lu la Bible, et je me suis renseigné. Et cette parole qui est pour nous vérité, qui est une lumière, il y a beaucoup le mot lumière qui est revenu ce matin, et on va encore en parler. Vous allez voir, cette parole de vérité qui a renseigné ces quatre baptisés sur qui ils étaient, sur qui était Dieu, sur ce que Dieu voulait pour leur vie. Et on a entendu des témoignages magnifiques de jeunes qui avaient donné leur vie entièrement à Jésus-Christ. Et cette parole, je suis vraiment heureux de la partager avec vous ce matin. Et avant de l'ouvrir, j'ai une petite anecdote à vous raconter. En 2011, je suis allé aux États-Unis avec un de mes frères et... On a rencontré un groupe de chrétiens dans la rue avec des pancartes et ils annonçaient le jugement dernier, le retour de Jésus-Christ. Et ils avaient une date très précise. Ils disaient, il va revenir le 21 mai 2011 à 18h. Alors, on était à Washington et il y avait des pancartes de partout qui nous indiquaient ça. C'est un certain Harold Camping, c'est un animateur de radio chrétienne qui a étudié sa Bible pendant plus de 70 ans et il le disait, vous voyez là, la Bible garantit. The Bible guarantees it. La Bible garantit, il va revenir. Alors, il avait fait plein de calculs et c'était sur 18h, le 21 mai 2011. À ma connaissance, date est passée. Je me souviens avoir demandé à un de ces jeunes de me passer son adresse email pour qu'on puisse discuter après le 21 mai 2011, parce que moi, je ne pensais pas que le Seigneur allait revenir le 21 mai 2011. Et c'est vrai que ce sujet, le retour de Jésus-Christ, on en a parlé, notre frère en a parlé pendant qu'on prenait le pain et le vin, on se souvient qu'il va revenir, c'est une certitude, et c'est un sujet qui est très très important. On aura envie de se dire, bon, il reviendra. Mais non, dans le Nouveau Testament, il est parlé 9 fois de la nouvelle naissance, 20 fois du baptême, 70 fois de la repentance, et plus de 300 fois du retour de Jésus-Christ. On s'est déjà tous posé la question, quand est-ce qu'il va revenir? Et je pense que chaque génération a vu des signes, des choses, et s'est dit, il va revenir, c'est quand? Et j'aimerais nous poser des questions ce matin, est-ce que c'est important pour nous de savoir quand Jésus va revenir? Est-ce qu'on a besoin de savoir quand exactement? Est-ce que déjà on peut le savoir? Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit savoir sur le retour de Jésus-Christ? Et on n'est pas les seuls, dès le premier siècle après Jésus-Christ, des chrétiens déjà dans l'église de Thessalonique, une ville en Grèce, se posaient la question de quand est-ce que Jésus allait revenir. Et avant de lire ce passage qui se trouvera en 1 Thessaloniciens 5 pour les versets 1 à 11, vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi. J'aimerais rappeler un petit peu le contexte de ce chapitre parce qu'il commence un pour. Et donc, il se passe des choses avant, il se passe des choses après. Paul avait toujours voulu retourner voir les chrétiens là-bas, mais il n'avait pas pu y aller. Et il avait envoyé Timothée, un de ses disciples, un de ses amis. Il avait envoyé Timothée là-bas. Et Timothée est revenu, et je vais faire un peu la scène. Waouh, Paul, il se passe plein de choses depuis que tu es passé par là. Il se pose plein de questions. Il y a une espèce d'effervescence là autour de ton retour. Il se pose des questions. Est-ce que les chrétiens qui sont morts, ils seront ressuscités? Quand est-ce que tu vas revenir? Et tout ça, ouais. Je ne sais pas s'il lui a demandé de rédiger une lettre, mais Paul, il s'est dit, je vais rédiger une lettre pour cette église. Et donc, c'est celle-là, c'est 1 Thessaloniciens. Et donc, on va voir que là, pour ce passage en question, Paul leur écrit par rapport à quand est-ce que Jésus va revenir. Et on va lire ensemble, donc 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Alors ce texte, c'est un texte qui est assez dur et on va essayer ensemble de comprendre ce que Paul a voulu laisser à ces chrétiens de Thessalonique et plus largement à nous aujourd'hui. Cette parole s'adresse à nous. On voit très bien, par rapport à ce retour de Jésus, qu'ils n'ont pas à savoir quand est-ce que Jésus va revenir. Et ils commencent direct. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Il aurait pu s'arrêter là, sur la question du quand. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et il rajoute, vous savez vous-même parfaitement, on peut lire aussi dans d'autres versions, exactement, vous le savez, et ça devrait être un acquis, le Seigneur va revenir, mais vous n'avez pas à savoir quand. Ça s'adresse aussi à nous également et à ce cher Harold Camping qui avait prédit ce retour de Jésus. On n'a pas à faire des calculs fumeux, vaseux dans la Bible et essayer de savoir quand est-ce que le Seigneur revient. Jésus lui-même disait à ses disciples, pour ce qui est du jour et de l'heure, en Matthieu 24, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc nous n'avons pas à faire des calculs dans la Bible, de la numérologie ou je ne sais quoi, pour essayer de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Mais on apprend par contre d'autres choses. On apprend comment le Seigneur va revenir. Et alors on a deux images très fortes. On apprend que le Seigneur va revenir comme un voleur dans la nuit. Et alors on va voir, grâce à cette image du voleur dans la nuit, on va voir quelques caractéristiques de ce retour de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse les voir ensemble. On apprend que le Seigneur va revenir de façon inattendue, de façon imprévisible. Je ne sais pas si on aimerait tous qu'un voleur nous envoie un texto pour nous dire « dans 15 minutes, je suis chez toi et je vais prendre les bijoux de ta femme ou de ta famille ». Malheureusement, un voleur ne nous prévient pas. Et cette image est forte et Paul la reprend. Jésus lui-même disait qu'il allait revenir comme un voleur. Donc on voit un côté inattendu, imprévisible, voilà, comme un voleur dans la nuit. On apprend par la suite que ce retour sera destructeur et douloureux. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors soudainement que la ruine fondra sur eux, nous dit le texte. Paul dit « les hommes », il s'adresse ici à des non-croyants. On va le voir plus tard, mais je ne veux pas faire des sauts en avant dans le texte, mais les hommes dont parle Paul, ici, sont des non-croyants. Et je pense que le retour de Jésus va nous surprendre tous, dans le sens où on ne sait pas quand il va arriver. Mais là, on apprend que c'est un retour qui va surprendre les hommes, alors qu'ils penseront être en paix et en sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être en paix et en sécurité ? Je pense, ne pas me tromper, que Paul voulait dire ici, c'est alors que les hommes penseront être sans problème, tout va bien. Il n'y a pas de jugement. De toute façon, on est en sécurité. Dieu n'existe même pas, donc ces jugements, même le jugement, on n'a pas à le craindre. C'est ça ce que Paul est en train de nous faire comprendre. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui l'ignorent, pour eux, pas de ruine, pas de douleur, rien, parce que tout ça n'est que mensonge. Donc c'est quand les hommes penseront être tranquilles et sereins, en train de s'amuser, de prendre plaisir dans cette vie, que le Seigneur va venir et c'est être une ruine qui va fondre sur eux. Et la ruine, c'est ce côté un peu douloureux, et on le voit un peu après avec l'image des douleurs de la femme enceinte. Les douleurs de la femme enceinte, dans la Bible, on le retrouve plusieurs fois, ça explique vraiment la douleur, et c'est des douleurs aussi qui sont caractéristiques du jour du Seigneur, du jour où, du jugement, le jour où Jésus va revenir. Par cette image aussi de la femme enceinte, on apprend aussi que ce retour sera inévitable. Et c'est la fin du chapitre 3 qui nous le dit. Ils n'y échapperont point. Personne, nous tous ce matin, personne n'échappera au retour de Jésus. Il va revenir, c'est une certitude. On n'a pas à savoir quand, on a des indices. Même si la Bible nous donne des indices, je suis d'accord avec vous, le Seigneur va revenir. Et on voit ce côté inévitable, personne n'y échappera. Et ça fait penser aux douleurs de la femme enceinte. Moi, je travaille dans le milieu hospitalier en maternité. Et il faut reprendre le contexte de l'époque où pas de péridurale, on n'avait pas des échographies ou quoi pour savoir presque au jour près quand est-ce que le bébé pouvait venir. Si on reprend ce contexte-là, une femme enceinte, elle sait qu'il y a un bébé qui va venir, elle ne sait pas quand exactement, et ça surprend. Et les contractions sont inévitables et douloureuses. Donc cette image de femme enceinte est vraiment forte, et à l'hôpital, des fois, on entend que ça fait mal. On voit les dames. Et nous, les hommes, on s'en réjouit. Mais on se réjouit de voilà de pas passer par là. Ouais, ça fait vraiment mal et ça fait vraiment vraiment mal apparemment. Donc, pour résumer, ce retour de Jésus sera imprévisible, destructeur et inévitable. C'est une certitude. Et alors la suite du texte va nous expliquer un peu à comprendre qui va être surpris, qui ne va pas être surpris. Et je vais continuer donc avec la lecture du verset 4 et 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Et depuis ce matin, dans plusieurs prières, on entend lumière, ténèbres, la lumière qui est venue dans le monde. Il y a un frère qui a lu le début de Jean, la lumière qui est venue dans le monde et tout ça. Et je vais prendre quelques instants, c'est très important de comprendre qu'est-ce que cette lumière et qu'est-ce que ces ténèbres. Et avant de regarder qu'est-ce qu'un fils de la lumière, il faut comprendre qu'est-ce qu'est la lumière. Et je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais ce qu'on voit dans la Bible, et on le voit dès le début de la Genèse, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Et je lis juste ce texte qui est magnifique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. On voit dès le début que lumière et ténèbres sont radicalement opposées. Il faut comprendre ces histoires de lumière et de ténèbres de façon symbolique. On peut lire au travers de la Bible que la lumière est aussi la parole. Tout à l'heure, on a entendu, dans une prière, que la parole de Dieu était une lumière sur notre sentier, une lampe qui nous éclaire. Et donc dans la Bible, des fois la lumière c'est la parole, des fois la lumière c'est Jésus, des fois c'est la révélation de Jésus, des fois la lumière c'est la pureté, c'est la vérité. Il faut comprendre un peu ce concept de lumière et de ténèbres, juste pour montrer deux entités, deux choses, et des fois même dans la Bible, deux façons de vivre qui sont complètement opposées. Vivre dans la lumière ou vivre dans les ténèbres. Et en ce qui concerne notre texte, Paul est en train de parler du chrétien. Le fils de la lumière, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui a reçu cette lumière de Jésus-Christ. Jésus, ce n'est pas de la lumière. Jésus, c'est un homme. C'est Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Mais dans ce début de Jean, on peut lire que c'est une lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les hommes, pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. On lit que ces ténèbres, d'ailleurs, n'ont pas accepté cette lumière. C'est une lumière qui révèle l'état de notre cœur. Donc j'aimerais voir avec vous un peu le portrait. On pourrait faire une liste très longue, mais c'est pour nous expliquer à comprendre qu'est-ce qu'un fils de la lumière. Un fils de la lumière, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur. C'est quelqu'un qui a, pour garder l'image de ténèbres et de lumière, qui a ouvert son cœur de ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. C'est donc quelqu'un qui a mis sa vie en règle avec Dieu, qui s'est repenti, qui a accepté, qui a fait de la place, toute la place, pour Jésus, cette lumière. C'est donc quelqu'un qui a reçu le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et on peut lire dans une autre lettre de Paul, « Autrefois, vous étiez ténèbres, Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On apprend donc qu'un chrétien, par sa foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, il est passé des ténèbres à la lumière. Donc tout ça pour nous expliquer ce que Paul entend par fils de lumière. C'est donc un chrétien. Par opposition, par contraste, on peut voir donc que voudrait dire être dans les ténèbres. Alors, je ne vais pas dire exactement le contraire de ce qui a été dit pour fils de la lumière, mais et dans les ténèbres, celui qui n'a pas donc reconnu Jésus comme son sauveur et comme le Seigneur, le Maître, qui doit diriger sa vie. C'est donc quelqu'un qui n'a pas encore demandé pardon à Dieu pour ses péchés. C'est quelqu'un qui a endurci, qui a endurci, qui continue, qui a endurci son cœur à l'écoute de Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut pas accepter cette lumière, qui ne veut pas mettre sa vie en lumière devant Dieu. C'est quelqu'un qui ne croit donc pas en Jésus, qui l'ignore. Donc suite à ces portraits de qu'est-ce qu'un fils de la lumière et qu'est-ce que quelqu'un, donc un fils des ténèbres, quelqu'un qui est dans les ténèbres, on comprend ce que Paul a vraiment voulu dire ici, c'est qu'un chrétien ne sera pas surpris comme un non-chrétien par le retour de Jésus. Et alors ensuite, à partir du verset 6, il va nous ce qui est important, c'est pas de comprendre quand Jésus va revenir, mais plutôt de comment l'attendre. Et Paul, à partir du verset 6, va nous donner des indications, des encouragements, des exhortations sur comment attendre le Seigneur. Et alors, ce passage est magnifique, il est fort, et je vais juste le relire. « Ne dormons donc pas comme les autres, comme ceux qui sont dans les ténèbres, mais veillons et soyons sobres. » Et alors, j'aimerais voir avec vous donc comment attendre ce... Qu'est-ce que ça veut dire ne pas dormir, rester éveillé et être sobre? Pareil, là, Paul ne nous donne pas une liste de comment veiller, mais je pense qu'à la lumière de tout ce qu'on peut lire dans la Bible, on peut comprendre que pour attendre correctement le retour de Jésus, pour ne pas s'endormir. Et ici, vraiment, il faut comprendre s'endormir de façon spirituelle, intellectuelle. Ce n'est pas une histoire vraiment de dormir ou de rester éveillé. Il faut bien qu'on dorme, vous comprenez ici. Qu'est-ce qu'un chrétien qui veille spirituellement, intellectuellement, qui est sur ses gardes? Et qu'est-ce qu'un chrétien... Même un chrétien peut dormir, on verra par la suite du texte. Et Paul ici nous invite tous à veiller et à être sobre. Alors, c'est quelqu'un qui veille sur sa manière de vivre. Excusez-moi, je reviens sur mes notes. Quelques indications, ça serait veiller sur sa manière de vivre avec les gens qui nous entourent dans ce monde, rejeter l'impureté, la cupidité, l'inconduite, les grossièretés, les propos insensés, l'égoïsme, la convoitise. Veiller et rester sobre, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher le royaume de Dieu? On pourrait le coupler avec le slide suivant, en rachetant le temps. Le Seigneur nous appelle à veiller, à investir notre temps, notre argent, dans les priorités du Seigneur, à ne pas s'occuper de nos vies, mais s'occuper de lui, le mettre en premier dans notre vie. Essayer de discerner sa volonté, de comprendre qui il est, qui il veut pour nous, en faisant de notre sanctification une priorité. S'occuper d'être saint, le Seigneur a dit « Soyez saints, car je suis saint ». Un chrétien qui veille, c'est donc un chrétien qui s'occupe de toutes ces choses, qui met Dieu à la première place dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller au plaisir de la vie, même si on est invité à profiter. Il y a des choses, tout ce que Dieu a créé, c'est bon, mais il y a des façons de profiter de certaines choses. Et même si elles sont légitimes, un chrétien... Il investit non pas pour la fin de sa vie sur terre, mais il investit pour le ciel, il investit pour l'éternité. Et pour tout ça, on a besoin de lire et de méditer la parole, et c'est ce qu'on fait ce matin, on la lit, on la médite ensemble. On a besoin, les uns les autres, de découvrir qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous. C'est le meilleur moyen de veiller et de ne pas être surpris par ce retour de Jésus. Et je lisais dans un autre texte qu'aussi, on peut veiller en louant et en adorant Dieu. Et il y a ce passage connu qui nous dit de nous entretenir par des hymnes, par des cantiques, par des chants. On a besoin de... Ça permet de garder Dieu devant les yeux. C'est un moyen de veiller. Pour résumer, qu'est-ce qu'un chrétien qui veille, qui donc ne dort pas, qui est vigilant, qui est sobre. C'est quelqu'un qui est alerte, qui est sobre, qui ne se laisse pas intoxiquer par les fausses valeurs de ce monde, l'argent, le pouvoir, les plaisirs de la vie. C'est quelqu'un, au contraire, qui mène une vie équilibrée, disciplinée et qui adopte dans sa vie les priorités de Dieu. Et par la suite, « Mais nous qui sommes du jour », au verset 8, « soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Quand j'ai préparé cette liste, je croulais sous cette liste. Je me disais, mais c'est impossible. C'est impossible de vivre comme ça. Et Paul va nous expliquer comment c'est possible. Il va nous donner des armes. Quelles sont les armes pour un chrétien pour veiller et ne pas être surpris par le retour de Jésus. Et alors, il va nous parler de trois choses. Ces trois choses qu'on trouve souvent comme une formule dans la Bible. Vous connaissez peut-être dans 1 Corinthiens 13, les choses, la foi, l'amour et l'espérance. Et Paul va nous parler de ça. Ce n'est pas juste une formule qui fait bien, ce sont les vertus chrétiennes à rechercher, à méditer et à appliquer dans sa vie. Alors l'image de la cuirasse et du casque sont belles. La cuirasse protège nos organes vitaux, ça protège notre cœur, et le casque, lui, il protège notre tête. Garder notre cœur, garder notre tête. On apprend que la foi est notre première arme. Paul nous dit, il faut croire, avoir la foi. Croyons, mes frères et sœurs, croyons de tout notre cœur. Ayons la foi, ayons confiance en celui qui peut tout. Cette liste, vraiment, je l'ai dressée. Et je me disais, mais je ne peux rien faire sans la foi, je ne peux rien faire sans Dieu. Par la foi, c'est notre arme première, croire en celui qui peut tout, alors que nous, on ne peut rien par nous-mêmes. La foi et l'amour, aimons Dieu, mettons Dieu en premier dans nos vies, aimons notre prochain, c'est vraiment un moyen d'être décentré de soi-même et d'être vraiment dans les priorités de Dieu. Vous savez, Jésus, il a tout résumé en un seul commandement, aimez votre prochain, aimez votre prochain. La foi et l'amour sont des moyens de nous garder. Et pour finir, Paul nous encourage à espérer. Et c'est là-dessus que j'aimerais passer un peu de temps, cette espérance. Le chrétien, il n'a pas l'espoir que peut-être, apparemment, Jésus reviendrait. Le chrétien, il a planté dans son cœur la conviction que Jésus va revenir pour le chercher et pour le prendre avec lui pour l'éternité. Un chrétien, il croit, il aime Dieu, il aime son prochain de tout son cœur et il espère, il vit dans cette perspective de l'éternité. Il y a cette phrase connue qui dit « On a les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. » C'est comme cela que Jésus veut qu'on vive, avec devant nous l'espérance qu'il va revenir, qu'un jour on va être avec lui. Comme je disais, la foi, l'amour et l'espérance sont des choses à pratiquer et à mettre en œuvre dans nos vies. Et Paul va finir d'une façon magnifique et remarquable à partir du verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Paul rappelle d'avoir la foi, d'aimer et de croire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante de vivre une vie de comme quelqu'un qui attend ? Il n'y a pas de plus bel encouragement de savoir qu'on est destiné à la vie éternelle. Et il rappelle brièvement l'œuvre de Jésus. Qui est mort, verset 10, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. J'ai eu un peu de mal à comprendre le soit que nous veillions, soit que nous dormions, parce qu'apparemment, celui qui dort, il sera surpris par Jésus. Et c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus qui sera surpris. Et il y a cette tension qu'on retrouve, et on la retrouve dans de nombreux passages dans la Bible. Paul est simplement en train de nous dire « soyez ce que vous êtes ». Vous êtes des fils de la lumière, vous devez marcher dans la lumière et vous ne serez pas surpris. Donc celui qui et il y a quand même un encouragement. Ici, on peut comprendre, soit que nous veillons, soit que nous dormions, on peut comprendre le dormir, quelqu'un qui est mort, un chrétien qui est mort, et il est rassuré au chapitre précédent, celui qui est mort, le Seigneur va revenir aussi le prendre. Et on peut aussi comprendre, et je pense que j'ai lu des commentaires pour m'aider sur ce passage, que Paul est en train de dire que si le Seigneur revient alors qu'on est dans une période dans notre vie où on est en train d'un peu de s'endormir, on n'est pas trop en train de veiller, c'est pas ça qui fait qu'on est sauvé. Paul est en train de parler qu'on est destiné au salut. Qu'on soit dans un moment en super forme avec le Seigneur ou dans un moment où ça ne va pas, le Seigneur nous destine à la vie éternelle pour tous ceux qui ont cru en lui. Donc ce n'est pas de veiller qui fait qu'on est sauvé. Ce n'est pas d'être sobre qui fait qu'on est sauvé. Mais Paul, là, met cette tension, je pense, pour nous appeler à vivre ce que nous sommes appelés à vivre dans la lumière, sous sa lumière, et donc à veiller. Et la seule exhortation que je peux vous laisser ce matin, c'est celle que Paul laisse ici, au verset 11. « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. » Il n'y a pas d'autre conclusion à faire que celle de Paul ici, qui est celle, on a besoin, mes frères et sœurs, on a tous besoin de s'édifier les uns les autres, de se construire pour être dans la lumière et marcher dans la lumière. Et je ne peux pas vous raconter ma vie, mais récemment, j'ai été repris, j'avais gardé quelque chose pour moi, une zone d'ombre, quelque chose que je voulais cacher, que je voulais laisser dans les ténèbres. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, il a mis en lumière. Je ne peux pas vous expliquer comme ça m'a fait mal, mais comme ça m'a fait du bien de goûter encore une fois combien le Seigneur fait grâce, combien le Seigneur pardonne, et qu'est-ce que c'est bon de pouvoir venir complètement dans la lumière, parce qu'on ne peut rien lui cacher à Dieu. Il le savait, et par l'intermédiaire de frères, ça a été dur pour moi. J'ai pu remettre en règle certaines choses dans ma vie. Et je nous invite vraiment ce matin à tous essayer de le faire. C'est très dur. Mais on voit la main de Dieu, on voit un Père qui nous aime et qui nous reprend des fois, et qui veut qu'on amène à la lumière ce qu'on cache, parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps de ne pas se repentir. Alors que Dieu a les bras toujours ouverts vers nous pour nous accueillir. Et on a besoin dans l'Église de vivre comme ça. Paul le dit, exhortez-vous. Édifiez-vous, il faut qu'on se construise les uns les autres, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on s'encourage, plutôt que se comparer, se critiquer, parler ou quoi. On a besoin de venir se voir, de lire la parole, de méditer. Il faut qu'on attende le Seigneur, il va revenir. Ne dors pas. Dans la Bible, on dit réveillez-vous, vous qui dormez, réveillez-vous. Et Paul veut mettre cet électrochoc là, il faut qu'on veille, Jésus va revenir. Et ça nous paraît fou, ouais, mais bon... Il va revenir, il peut revenir maintenant. Et moi, j'ai du mal à le réaliser, ça. Il peut revenir maintenant. Il faut qu'on veille. Et on a cet encouragement, qu'on veille ou qu'on dorme, au moment du Seigneur, on sera sauvés. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ seront sauvés. Et je ne sais pas, j'aimerais quand même lancer un appel ce matin. Paul ne le lance pas ici, mais moi, je l'ai vraiment à cœur. On a lu que le Seigneur va surprendre tout le monde, mais il va surprendre certains, les non-croyants, pour un jugement. C'est très dur. C'est très dur ce que la Bible nous dit. C'est que le Seigneur va revenir pour juger et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ceux qui auront cru en Jésus-Christ, ceux qui auront accepté de mettre leur vie à sa lumière, ceux qui auront placé leur foi en Jésus, ils seront épargnés de ce jugement. Ils seront trouvés justes devant Dieu parce qu'ils auront accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Mais toute personne qui n'a pas accepté personnellement Jésus-Christ se verra être jugé et passer l'éternité privé de la présence de Dieu. Mais quel espoir de savoir qu'il y a une solution, il y a une espérance, c'est que Jésus-Christ ne surprendra pas celui qui a cru en lui. Ne le surprendra pas, mais il ne viendra pas pour le juger, mais il viendra pour le sauver et pour le prendre pour l'éternité avec lui. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu, c'est une grâce imméritée, qu'on a un sauveur, l'espoir des nations. Jésus, c'est mon espoir dans ma vie. Et j'aimerais tellement que ce soit l'espoir de chacun d'entre vous, de vous dire que je sais où je vais passer l'éternité, je vais la passer auprès de Dieu, avec tous ceux qui auront cru d'un cœur sincère. On a entendu tout à l'heure encore la sincérité. Tous ceux qui sont sincères, le Seigneur vient s'infiltrer comme la lumière s'infiltre dans les ténèbres et vient mettre en lumière nos vies, vient mettre en règle nos vies, parce que Jésus a accompli. Et je ne sais pas comment vous avez pris la Sainte Cène tout à l'heure, mais j'espère que vous l'avez pris vraiment en vous réjouissant, que le Seigneur va revenir et il va vous prendre pour l'éternité avec lui. Et j'aimerais inviter tous ceux qui se posent des questions, qui ont des doutes, qui ont encore leur vie, ce terme est fort, dans les ténèbres, Sachez que Jésus, c'est la lumière du monde, on l'a chanté tout à l'heure, et il est venu pour éclairer les hommes, pour leur révéler qui ils étaient, et pour leur révéler qu'ils avaient besoin personnellement d'un sauveur. Et c'est une histoire personnelle de chacun, et j'invite tous ceux qui ont envie de creuser la question, de se poser des questions, ou de donner leur vie à Jésus, de le faire dès maintenant. Dans la Bible, on lit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour prendre une décision avec Jésus et passer, comme la Bible dit, des ténèbres à la lumière et de pouvoir passer l'éternité avec lui. Et si vous voulez bien, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, pour cette vérité, pour cette lumière qui nous éclaire dans nos vies, alors qu'on pourrait se laisser balloter à gauche, à droite par des mensonges, des fausses prophéties, des calculs bizarres. Le monde nous sollicite et nous encourage à faire tout sauf te connaître, sauf vivre une vie de piété, une vie saine devant toi. Et ta parole nous éclaire. Et encore ce matin, elle nous apprend que tu es ce Dieu qui va revenir. C'est une chose certaine. Et tu vas revenir pour prendre avec toi ceux qui t'appartiennent. Parce que tu l'as promis. Ce n'est que des promesses, ce ne sont que des promesses qui nous appartiennent. Et tu dis que tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu vas venir nous chercher, et cette espérance-là nous réjouit. Et nous avons besoin, Seigneur, de veiller, d'être sobre dans notre conduite, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter les uns avec les autres, envers ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, c'est dur d'entendre qu'il y a une ruine qui va fondre, qui va venir, qui fera mal sur ceux qui ne t'auront pas reconnu. Et Seigneur, chaque jour, tu lances une invitation à tous les hommes de revenir à toi, dans la lumière, de t'accepter, toi le Sauveur. Et c'est ma prière ce matin pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui puissent mettre leur vie en règle devant toi, se repentir, t'accepter dans leur vie, parce qu'il n'y a pas de plus belle chose que de t'appartenir. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné la foi, tu nous donnes ton amour pour qu'on le répande aux autres à notre tour comme des lumières dans ce monde. Et on a cette espérance qu'un jour on va passer notre vie avec toi. Je te prie pour que chacun ce matin puisse reconsidérer toute chose à la lumière de l'éternité, qu'on puisse vivre comme si tu allais revenir ce soir, aujourd'hui et maintenant, qu'on puisse être vigilant, Seigneur, et être sobre dans tout ce qu'on fait, pour ne pas être surpris. Seigneur, merci pour cette belle journée et pour la présence de mes frères et sœurs ce matin. Amen.